Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Bien, nous parlons aujourd'hui du rôle d'un avocat dans la société. Pourquoi est-il important de recourir au service d'un avocat? Vous savez, bon nombre de gens cherchent les avocats lorsqu'ils ont des problèmes avec la justice. Ils estiment que celui-ci est mieux placé pour défendre leur cause. Certains, pour créer, par exemple, une entreprise ou une ASBL, voilà, on va solliciter les services d'un avocat pour nous aider. Alors, est-ce que le rôle de l'avocat se limite juste à cela? Et pourquoi est-il important d'avoir un avocat, de recourir à ses services? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions avec notre invité, Maître Jean-Paul Kitenge, avocat au barreau de Kinshasa et Lubumbashi, et membre du barreau pénal international et du conseil des barreaux européens. Maître Jean-Paul Kitenge est à Lubumbashi. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour Marcel.
Non, c'est jeudi à l'antenne. Maître Jean-Paul, dites-nous, quel est le rôle d'un... Qui est un avocat et quel est son rôle dans la société?
Merci Marcel. Le rôle de l'avocat est très simple. C'est-à-dire que c'est un rôle qui ne peut pas sortir de la cadre légale. La loi telle que nous l'avons, c'est-à-dire la loi organique du barreau de 1979, donc la loi numéro 28, dit que l'avocat est un auxiliaire de justice. En tant qu'auxiliaire de justice, l'avocat est chargé de beaucoup de missions, entre autres, représenter les parties, assister les parties, concilier les parties devant les juridictions. Ça, c'est la première mission de l'avocat, qui est une mission judiciaire. En plus de cette mission judiciaire, l'avocat a une mission extrajudiciaire, c'est-à-dire poser les actes de consultation, de conseiller, de concilier, de rédiger les actes sous seing privé ou d'assister, même représenter les parties en dehors des juridictions. Voilà la manière dont la loi a voulu entendre de l'avocat en tant qu'auxiliaire de justice.
Voilà, vous avez dit à l'avocat, d'abord, ça, il a une mission judiciaire et ensuite une mission extrajudiciaire. Commençons par sa mission judiciaire. Qu'est-ce qu'il est censé faire exactement?
Dans la mission judiciaire, l'avocat représente les parties, assiste les parties, représente les parties beaucoup plus dans des matières civiles où la représentation n'est pas un principe. Assiste le parti dans des matières qui excluent l'hypothèse de la représentation. Nous prenons par exemple le cas des procédures pénales, où le principe est la comparution personnelle des parties et la représentation n'est qu'une exception. Et cela s'est fait devant les juges. C'est comme ça qu'on le ramène devant les juridictions. Et aussi, il peut postuler, c'est-à-dire il peut demander pour les comptes de X, des parties X, Y, Z, qui sont considérées comme des parties, des demandes devant le juge.
Maître Jean-Paul.
Je conclue.
Maître Jean-Paul.
Oui.
Ouais, si vous pouvez donner beaucoup plus d'exemples de la vie quotidienne pour nous permettre de mieux comprendre. Par exemple, je suis convoqué je dois comparaître et je peux ne pas aller, mais je délègue mon avocat pour aller me représenter.
Ça c'est fait. Oui, ça ne peut pas se faire, c'est comme ça que je voulais en venir. Ça ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce que quand vous êtes convoqué devant le juge et devant le magistrat, c'est-à-dire il y a une instruction qu'on qualifie de l'instruction privée ou préjuridictionnelle, le magistrat a besoin d'avoir votre version de fait par rapport à ce qui est reproché. Alors, il a besoin de Monsieur X. L'avocat ne représentera pas la personne. Pourquoi? Parce que l'avocat n'a pas vécu les faits, l'avocat n'a pas commis les faits, l'avocat va plutôt l'assister. Là, nous sommes dans un domaine bien précis qui est la matière pénale. Quand vous recevez une convocation du parquet, vous lisez, ça peut être un mandat de comparution, ça peut être un mandat d'amener, ça peut être une invitation. Vous, en tant que citoyen, vous avez reçu ces documents, vous avez l'obligation ou bien vous avez les devoirs, vous pouvez prendre un avocat. Mais cet avocat ne va pas vous représenter, il va plutôt vous assister. C'est-à-dire, quand vous allez comparaître, les questions qui vous seront posées par le magistrat en instruction, bien sûr, d'un dossier, vous vous irez à côté de ce monsieur qui sera entendu, qui sera auditionné par le magistrat, en train de suivre ce que le monsieur va donner comme réponse.
Mais je peux, mais avant de partir, je peux parler avec mon avocat, je lui explique la situation, les faits tels qu'ils se sont déroulés, et lui, il peut aller me représenter.
Ça ne peut pas se faire, pourquoi ? Parce que dans les mandats de comparution, on ne donne jamais les motifs en disant que non, vous vous présenterez pour ça, ça, ça. Non, ça ne se fait jamais. Mmh. Alors comment il libelle les convocations ou bien les invitations ou bien les mandats de comparution ? Ils vous disent clairement que non, les motifs seront connus sur place. Alors ce qui fait que je ne connais pas de quoi il s'agit, je peux penser que non, ça peut être ça. J'arrive, on me pose d'autres questions, donc il n'y a pas moyen de vous préparer. Vous êtes obligé d'aller avec votre avocat pour qu'il puisse vous assister. Donc ça ne sera pas possible que vous puissiez demander, donner les éléments à un avocat pour que l'avocat puisse aller répondre. Non.
D'accord. Donc il a pour rôle de représenter les parties, de nous assister. Quelles sont les autres tâches de l'avocat ?
Oui, sur la représentation, c'est beaucoup plus devant le juge, c'est-à-dire devant le tribunal. Mmh. Devant le tribunal, en ce qui concerne les matières civiles, on donne la possibilité, ça c'est un principe sacro-saint chez nous, qui dit que la représentation est le principe et la comparution personnelle de la personne est une exception. En ce qui concerne le juge, donc le tribunal, on admet que l'avocat puisse représenter son client parce qu'il est porteur de pièces. Et cet avocat qui comparait devant le juge doit être muni de pièces, et ces pièces font croire au juge que non, effectivement, l'avocat a eu connaissance des faits. Et c'est pour cela qu'il est admis que cet avocat puisse représenter, je dis bien représenter.
Un exemple d'un cas où, d'un procès où l'avocat vient représenter une partie.
Oui, vous recevez par exemple une assignation, c'est-à-dire un exploit introductif d'instance, une assignation où on vous dit que non, vous devez déguerpir de la maison.
Oui.
Alors, cette assignation a été instrumentée. Dès que vous recevez cette assignation, vous avez la possibilité de la confier ou bien de la donner à votre avocat pour que cet avocat aille à l'audience. Et les jours de l'audience, l'avocat va comparaître avec l'assignation et en vous représentant.
Donc vous pouvez ne pas être là, l'avocat s'occupe de tout.
Exact.
Voilà,
mais
donc,
avant cela, vous aurez une séance de travail certainement avec votre avocat qui va vous poser des questions pour préparer la défense, donc vos intérêts.
Mmh. Mais y a-t-il des matières où on exige la présence physique du concerné à part la comparution?
Nous avons dit en matière pénale, là où l'ordre public a été violenté, on est obligé de comparaître personnellement. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on peut représenter. Alors, la représentation en matière pénale est admise pour des infractions dont le taux de la peine ne dépasse pas 2 ans. Et l'avocat doit être, en principe, porteur d'une procuration spéciale. Je prends les cas d'une infraction bénigne, une injure dont le taux de la peine est moins de 2 ans, et on accepte que l'avocat puisse représenter la personne qui a violé la loi ou bien qui a énervé en quelque sorte l'ordre public.
Mais on a suivi, il y a des personnes qui ont été condamnées en leur absence, malgré la présence des avocats, on les a condamnées. Comment expliquez-vous cela?
Oui, il peut y arriver qu'on puisse condamner la personne en son absence si la personne a fait défaut, c'est-à-dire quoi, la personne n'a pas comparu. Alors, si la personne n'a pas comparu, on considère que non, les exploits ont été régulièrement instrumentés et que la personne devait prendre des dispositions pour être là. Comme ce sont des matières d'ordre public, il faut nécessairement que la personne comparaisse. Si les avocats comparaissent et que les avocats ont des procurations, bien non pas des procurations, ils ne peuvent pas. Alors, il y a une pratique qui s'est sécrétée pour admettre en matière pénale la représentation. J'ai dit bien une pratique, ce n'est pas la loi. Mmh. Une pratique qui s'est sécrétée de par les pratiques du prétoire, que les avocats puissent représenter des clients, mais pour solliciter des remises, c'est-à-dire un client qui est très indisponible, il peut donner le document à son avocat, l'avocat peut comparaître pour dire je ne réponds pas des faits, c'est seulement pour vous présenter le cas de mon client qui est gravement malade ou bien qui est vraiment indisponible et que ce client ne peut pas comparaître aujourd'hui, si vous pouvez renvoyer la cause à une date
ultérieure. Voilà. Bien, nous allons accueillir les auditeurs qui vous écoutent et qui veulent vous poser des questions par rapport à ces thèmes. Nous parlons du rôle d'un avocat. Richard Kanyoka est à Kanyoka, au Kasaï Central. Il va poser sa question tout à l'heure. Alors, vous voulez également participer à cette émission de la vie au quotidien. Composez le 081-890-63-94.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quel est le rôle d'un avocat? Pourquoi est-il important de recourir à ces services? Richard, vous êtes à Kanyoka, hein, au Kasaï Central. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour, messieurs les journalistes et bonjour à l'invité. D'abord, avant de poser la question, je tiens à remercier l'avocat pour avoir détaillé toute une notion du rôle d'un avocat. Mais nous sommes attristés ici à Kananga par rapport à un acte malsain infligé à un avocat par un sujet étranger qui œuvre ici à Kananga, qui a un peu giflé un avocat, ce qui nous a un peu attristés.
Pourquoi a-t-il giflé l'avocat?
Bon, cet étranger-là, il a giflé l'avocat. Le motif n'est pas normalement élucidé. L'avocat s'était présenté dans une messagerie financière. Je ne sais pas, c'était pour retirer son argent. Mais il se peut qu'il y a eu du bruit là sur le lieu du retrait de l'argent. Et que lorsque le patron est sorti de son bureau, il a trouvé l'avocat avec un groupe de gens en train de discuter. Mais quand il a posé des questions pour savoir de quoi s'agit-il, l'avocat a pris parole pour commencer à expliquer. C'était ça selon les informations diffusées sur les chaînes locales. Il a réuni son courage de gifler sérieusement l'avocat et il a ordonné aux personnes les sentinelles, bien pour bien dire, ou soit ceux qui œuvrent dans les services de gardiennage, de transporter dans les conditions irrégulières dragoniennes un avocat attitré les défenseurs des droits de l'homme. Donc, ça nous a répété, cet acte-là ne peut pas être commis, surtout par un sujet étranger qui œuvre ici en RDC.
Oui, c'est
alors
bien.
Qu'ailleurs, oui, Richard, nos Congolais et Congolaises sont tués.
Richard, oui, c'est bien dommage, oui. C'est bien dommage ces genres de situations. Alors, mais quelle est la question que vous adressez à notre invité, Maître Jean-Paul?
Ok, merci beaucoup. Par rapport à la question, j'aimerais tout de même demander à l'avocat pour me dire, parmi les missions d'abord que doit remplir l'avocat dans un dossier judiciaire, d'abord avant que l'avocat passe à la défense d'un dossier, il doit passer par les deux aspects, c'est-à-dire l'aspect de prodiguer les conseils aux parties et concilier les parties. Mais actuellement, nous voyons toujours que les avocats passe directement à la défense sans pour autant prodiguer des conseils, sans pour autant concilier les parties. Mais lorsque le dossier est déjà en justice, est-ce qu'un avocat en matière civile peut solliciter le divorce du mariage lorsque son client ne l'a pas voulu? C'est ça au moins la question primordiale que j'ai voulu poser maintenant.
Merci. Merci Richard. Merci Richard de Kanyoka. Fabrice Lumumba, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Ma question est celle-ci. Mm-hmm. J'aimerais savoir, parce que tout à l'heure, là, j'ai entendu le maître est en train de dire qu'en matière pénale, les concernés ne peuvent pas se faire représenter. Et si, par exemple, il s'agissait d'une entreprise, d'une personne pas physique, morale, tout ça, et comment est-ce que la procédure, ça ne s'est pas...
S'il s'agit d'une personne morale.
Oui.
D'accord, merci. Maître Jean-Paul, vous avez la parole.
Oui, merci. J'ai suivi la question, ou bien la préoccupation de notre ami Lumumba, mm-hmm. qui parle de la représentation de la personne morale. Oui, la personne morale est une personne fictive, hein, est une personne fictive, comme l'on a toujours dit, on répète que c'est une personne physique, mais qui agit, et qui ne peut agir qu'à travers les organes, qui sont bien sûr des personnes physiques. Alors, quand une personne morale est poursuivie en justice en ce qui concerne en ce qui concerne sa représentation, mmh. c'est les personnes habilitées à l'engager qui doivent en principe comparaître. Donc ça, c'est une exception de la personne morale qui ne sait pas comparaître en tant qu'une personne fictive, mais cette personne fictive agit à travers des organes, et ces organes, vous avez les personnes physiques, et ces personnes physiques peuvent comparaître.
Voilà. Et Richard dit, l'avocat a également le rôle de prodiguer les conseils, des conseils et concilier les parties. Alors il a l'impression que cela, les avocats ne les font plus.
Non, il faut toujours faire la part des choses. Un avocat, comme nous l'avons dit, c'est une aide réelle ou bien essentielle dans la gestion et dans l'administration de la justice. Et en étant ce qu'il est, il est obligé de passer à plusieurs étapes avant d'arriver à faire fixer, par exemple, à faire fixer une affaire. C'est-à-dire, il commence d'abord par une consultation. Et dans la consultation, l'avocat reçoit de son client tous les faits. Et c'est de là qu'il juge l'opportunité de continuer une affaire ou bien de ne pas continuer. Et en tant que conseiller, parce que nous l'avons aussi comme étant une mission en tant qu'avocat, nous sommes obligés de dire au client exactement les choses pour que les clients comprennent le risque, les avantages, les inconvénients d'une action en justice. Alors, c'est au client de décider. Dès que le client décide, il lève l'option et ça vous permet, vous, de procéder. Alors, monsieur Richard, notre ami Richard a parlé d'un divorce à l'encontre de la volonté, je crois, de son client. Oui. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire parce que c'est une procédure un peu spéciale où on exige aux parties de comparaître. Et si les parties comparaissent et que les parties ont des enfants à charge, il y a toute une procédure, il y a toute une période qu'on qualifie comme étant de période de conciliation où les parties tentent une conciliation. Si les parties ne sont pas d'accord de se réconcilier, là il y a un rapport qui est établi. Et pendant cette période de conciliation, l'avocat est absent. L'avocat n'apparaît pas, même si c'est l'avocat qui peut faire la requête, mais pendant la période de réconciliation, la période de réflexion, comme on dit, l'avocat n'est pas là. Et ce n'est qu'après, quand on fait un rapport et puis on fixe l'affaire, que l'avocat peut réapparaître. Alors, je vois très mal que l'une des parties ne soit pas d'accord avec la procédure de divorce et que l'avocat lève l'option pour dire que lui va procéder. Et c'est pour arriver à quoi? Parce que ce n'est pas l'avocat qui divorce, c'est plutôt les parties qui divorcent. Donc, c'est quand même une situation qui est un peu anormale.
Bien. Nous avons en ligne Donatien Chiyoyo à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, je vous dis bonjour à notre invité.
Quelle est votre question, Donatien?
Ma question est celle-ci, je vous dis. J'aimerais savoir, demander à notre invité, si quelqu'un décide de prendre un avocat pour un dossier, par exemple avec une société, alors il voit qu'il n'y a pas une bonne évolution depuis qu'il a pris l'avocat, est-ce que peut-il décider d'interrompre le contrat avec son avocat pour prendre un autre pour les défendre?
Pour quel type de dossier, par exemple, Donatien?
Par exemple, un dossier avec mon ancien employeur, par exemple, qui devrait me donner mon argent de dépenses finales. Alors, il voit que le dossier n'évolue pas. est-ce que peut-il décider de prendre un autre avocat? S'il décide de prendre un autre avocat, est-ce que est-il obligé de payer d'abord l'ancien avocat?
D'accord. Maître Jean-Paul Kitenye.
Oui, j'ai bien compris la question de Monsieur Donatien. Oui, de Monsieur Donatien. Mm-hmm. Il parle plutôt de la substitution d'avocat dans une procédure, ce qui est tout à fait normal qu'on puisse remplacer un avocat par un autre, mais il y a des préalables. Dans le cadre de barreau, dans le cadre de la loi organique du barreau, des règlements intérieurs cadre de barreau, des règlements des barreaux, des différents barreaux qui sont chez nous, tout a été réglementé. Tout a été réglementé. De quelle manière? Que vous ne pouvez pas remplacer un avocat par un autre sans désintéresser premièrement le premier. C'est-à-dire quoi? Préalablement, vous devez désintéresser le premier sur ses honoraires et puis voir comment procéder à son remplacement.
Mais maître,
c'est une question délicate.
Oui.
Pourquoi? Parce que vous avez consulté quelqu'un qui a commencé les études, qui a commencé à analyser des questions en rapport à votre dossier, c'est qu'il a mis du temps, il a mis de l'énergie, il a mis son intelligence. Et demain, vous êtes incapable de payer ses honoraires et basculer sur une autre. Alors, notre barreau, dans la solidarité des avocats, a mis en place de normes qui vous ramènent même à une certaine pénalité si vous osez prendre un dossier sans que le premier confrère puisse être désintéressé.
Oui, maître. Il a bien expliqué. Le confrère ne fait pas avancer les dossiers par rapport à ses décomptes finaux. Il a l'impression que l'avocat peut-être joue double jeu. Alors il décide d'arrêter avec lui pour prendre un autre. Alors faut-il lui payer ses honoraires alors que le dossier n'a pas évolué?
Oui, il faut toujours nuancer. Hein. L'avocat, le dossier n'a pas avancé, c'est-à-dire quoi? C'est relatif. Hein. Moi, j'ai dit que c'est relatif parce que quand on reçoit un client, il croit que non, la solution c'est pour demain ou bien c'est pour après-demain. Mais quand le dossier traîne un mois et demi, ça peut tomber dans l'impatience d'un client. Il estime que non, vous ne faites pas évoluer un dossier. Et il y a des réalités. Il y a même la procédure qu'il faut respecter. Moi, j'ai toujours dit aux clients que quand vous allez chez un avocat, c'est comme si vous allez chez un médecin et que vous êtes malade. Le problème, c'est un problème qui naît brusquement, mais il ne part pas brusquement. C'est-à-dire, vous avez le temps, il faut mettre le temps, pas beaucoup trop de temps, bien sûr, parce que nous avons l'obligation de diligence dans le cadre des traitements de nos dossiers, mais vous devez agir avec beaucoup de circonspection. C'est-à-dire quoi? Vous devez sécuriser les clients, vous devez poser des actes pour que les clients voient que non, son dossier évolue. Et pour un client, quand le dossier n'a pas un résultat après un mois, il croit peut-être que non, vous n'avez pas bien traité son dossier. Donc c'est une question un peu relative. Mais il y a aussi, je ne prêche pas pour les avocats qui meurent, bien qui se contentent de ne pas faire évoluer les dossiers, ça ce n'est pas bon. Donc nous avons quand même une obligation, quand un avocat ne fait pas diligence à un dossier, vous pouvez saisir le bâtonnier qui peut interpeller l'avocat pour lui dire exactement que non, il doit remplir une obligation qui est parmi les vertus que nous avons toujours, nous en tant qu'avocats, de la diligence dans le traitement des dossiers, avec célérité, avec ceci, avec cela.
Bien.
Donc ça peut arriver.
Ça peut arriver. Nous avons d'ailleurs Jean-Jacques, la question de Jean-Jacques depuis Bounia. Il nous a écrit, il dit « Beaucoup de gens estiment que notre justice ne marche pas bien parce que dans bien des cas, les juges et les avocats collaborent dans les traitements des dossiers pour que cela tire en longueur. » Qu'est-ce que l'invité pense de cette situation? C'est la question de Jean-Jacques de Bounia.
Oui, à cette question, je dirais que non, c'est une présomption. Hein, c'est une présomption simple. Dire que non, le juge et les avocats collaborent pour tirer les choses en longueur, c'est une présomption. En principe, ça ne peut pas se faire comme ça. Ça ne peut pas se faire comme ça parce que nous, en tant qu'avocats, je l'ai dit au début de l'émission, nous sommes des aides réelles. C'est-à-dire, nous agissons dans la gestion et dans l'administration de la bonne justice. Nous ne pouvons pas commencer à conjuguer avec des magistrats pour qu'un dossier traîne et puis qu'on trouve son compte. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans une profession libérale et qui... Allô?
Oui, on vous écoute, allez-y.
Oui, oui, ce n'est pas pour rien que nous sommes dans une profession libérale qui nous écarte un peu des statuts de magistrats ou bien des fonctionnaires. Donc, ce sont des situations anormales qui arrivent, bon, on ne peut que déplorer. Mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que l'avocat doit en principe aider son client pour que son client se sente en sécurité. C'est ça le rôle de l'avocat.
D'accord. David Kavunda nous appelle de Kolwezi. Bonjour David, et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, ma question se présente comme celle-ci. Dans le cadre de son service ou dans le cadre de son travail, est-ce qu'un avocat peut commettre des actes qui peuvent engager sa responsabilité civile ou sa responsabilité pénale?
Lesquels, par exemple?
Par exemple, lors d'une défense des intérêts d'un client à l'audience, il manquait certaines obligations et que le juge peut ordonner ce qu'un avocat puisse être arrêté alors qu'il défend les intérêts de son client. Ou dans le cadre d'un dossier, alors qu'il devait traiter avec une certaine approche le dossier, il ne l'a pas fait. Par après qu'on constate que le client a perdu la cause parce que l'avocat n'a pas bien fait son travail, est-ce qu'il peut être contraint à une réparation civile ou dans le cadre d'une audience pénale, est-ce qu'il peut être arrêté?
Bien, Maître Jean-Paul.
Oui, la responsabilité de l'avocat peut être engagée. Il a tout à fait raison, la responsabilité de l'avocat peut être engagée sur tous les plans. Mais à condition de prouver la responsabilité, les actes que l'avocat a posés qui ont entraîné cette faute-là et qui exigent une réparation conformément, bien sûr, à l'article 258 du Code civil livret 3. Alors, mais les avocats n'ont pas l'obligation, principalement l'obligation des résultats. Les avocats ont l'obligation des moyens, c'est-à-dire ils mettent en exercice toute la science connue, la science bien sûr, la science juridique, pour que dans la mesure du possible qu'on arrive à quelque chose. L'avocat n'a pas une obligation des résultats. Il y a quand même des actes qui ramènent l'avocat à une obligation des résultats. Et cet acte, ou bien ces actes, peuvent entraîner la responsabilité de l'avocat sur tous les plans, que ce soit sur le plan civil, que ce soit sur le plan pénal. Je vous donne un cas. Un client vous transmet un jugement, il a été condamné à payer des sommes, et il vous donne une procuration pour que vous puissiez faire acter un appel. C'est-à-dire, le client cherche la réformation d'une décision qui a été rendue parce qu'il n'est pas satisfait.
Oui.
Il vous donne les documents dans les délais. Vous devez procéder dans les délais aussi. Mais l'avocat n'arrive pas à faire acter un appel dans les délais. Et le client est condamné. Le client peut se retourner contre l'avocat pour avoir engagé sa responsabilité. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal. Kassongo nous appelle...
Oui, tout à fait, c'est tout à fait.
D'accord. Kassongo nous appelle de Mbujimaï et Dieu merci est à Manono. Kassongo, bonjour et qu'est-ce que vous avez à nous dire? Kassonga, pardon.
Ok. Bonjour à l'invité. Ok, bonjour l'invité.
Bonjour, quelle est votre question?
Ok. Ma question était la suivante. Hein. Est-ce que un des ministres, c'est-à-dire un pauvre, peut-il solliciter un avocat? Pourquoi? Parce que il ne respecte pas beaucoup les déontologies ou rôles. Hein. Il voit que celui qui sollicite n'a pas de moyens. Alors, ce dossier-là n'évolue pas. Et il cherche seulement les dossiers de ceux-là qui ont des moyens pour en avoir beaucoup et faire évoluer le dossier. Comment, maintenant, les pauvres peuvent-ils aussi solliciter la présence des avocats lors d'un dossier quelconque?
Merci. D'accord. Merci à Kassonga de Mbujimaï. Dieu merci est à Manono. Bonjour et quelle est votre question? Dieu merci de Manono. Il n'est plus là. Voilà, Maître Jean-Paul, oui. Vous avez suivi.
Oui, oui, je peux répondre à la question de notre ami Monsieur Kassonga.
Oui, allez-y.
Oui, tout à fait. Monsieur Kassonga, l'avocat preste, comme l'on dit, un ministère. Alors, ce ministère est réglementé. Quand un client n'a pas d'argent, il doit démontrer, il doit prouver que non, il n'a pas d'argent. Comment le démontrer? Par une attestation d'indigence. Et cette attestation d'indigence servira au client d'amener auprès du bâtonnier qui va désigner d'office ou bien qui va commettre d'office certains avocats pour l'assister. Ça, c'est connu. Alors, l'avocat n'a pas, le client n'a pas l'argent, il sollicite du bâtonnier, le bâtonnier vous désigne ou bien vous commet d'office pour défendre un client, vous devez le défendre en bonne et due forme jusqu'à la fin de la procédure.
Voilà. Et où est-ce qu'on peut obtenir cette attestation d'indigence?
Au niveau de la commune, au niveau de la commune, de maison communale, vous avez des bureaux qui sont attitrés à établir des attestations d'indigence. Mmh. Et pour les gens qui n'ont pas de moyens, parce que la profession aujourd'hui, c'est une profession qui se paye.
D'accord. Alors vous avez dit aussi que l'avocat a une mission extra-judiciaire.
Pardon, je ne vous coupe pas la parole. Pourquoi je dis que c'est une profession qui se paye? Parce qu'il n'y a pas de gratuité. Un avocat ne peut pas prester gratuitement, non.
D'accord, il ne peut pas prester gratuitement. Vous avez parlé aussi de la mission extrajudiciaire de l'avocat. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus des gens qui ont, par exemple, des parcelles. Et ils préfèrent les confier à la gestion, à son avocat. C'est l'avocat qui va signer les contrats, par exemple, de bail avec les locataires. C'est lui qui les représente dans beaucoup d'affaires, tout ça. Alors, on peut dire que le rôle de l'avocat est un peu plus large. Il a plusieurs rôles, tâches à jouer en tant qu'avocat pour assister, n'est-ce pas, un client?
Exact, oui. Aujourd'hui, les missions de l'avocat sont des missions. Donc, il y a tout un panel. Il y a tout un panel où vous avez plusieurs missions. Le rôle, il est là, comme auxiliaire de justice, c'est-à-dire une aide, mais il aide aussi les clients dans des procédures qui ne sont pas de juridiction, c'est-à-dire les extrajudiciaires. Vous avez la possibilité de conclure, vous avez la possibilité de représenter les parties, et de rédiger des actes sous un privé, c'est-à-dire des transactions, tous les actes que vous pouvez poser. Vous avez la possibilité d'assister les clients en dehors même de juridiction. Mmh. Donc aujourd'hui, les missions de l'avocat, ce sont des missions qui sont vraiment très 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 ouvertes, mais il faut les faire toujours conformément à la loi.
Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir par exemple un avocat de la famille? Donc quand il y a des problèmes dans la famille, on sait que c'est telle personne qui va nous représenter.
Exact, oui. Exact. Aujourd'hui, il y a quand même petit à petit, hein, comme on l'a constaté, beaucoup de familles commencent à solliciter les services ou bien l'assistance de l'avocat. Dans tout ce qui se passe dans une famille, l'avocat est toujours là, l'avocat conseille, l'avocat concilie s'il y a des litiges, s'il y a des différends. L'avocat donne des solutions et les gens s'exécutent. Petit à petit, la mentalité, on fait un effort pour que les gens comprennent les rôles de l'avocat dans la société, dans ce sens-là, pour pousser les gens à comprendre que non, les actes qui sont en train de poser aujourd'hui peuvent demain vous ramener à des conséquences très 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 néfastes. Alors il faut, pour éviter cela, les gens commencent petit à petit à se fier, à se confier. Même des familles, nous avons
même
des
les
familles
entreprises,
qui, avant de poser un acte, vos consulteurs vous demandent des avis, vous leur donnez des avis, ils exécutent.
Même les
et
entreprises.
C'est mieux, oui. D'ailleurs, c'est mieux parce que là, vous êtes en train de dévancer les litiges, parce que l'on évite beaucoup plus de problèmes judiciaires et on préfère beaucoup les extrajudiciaires qui règlent les problèmes. Il y a même un adage qui dit mieux vaut prévenir que guérir.
Voilà, mieux vaut prévenir. Une famille peut avoir son avocat, une entreprise aussi, et même une personne peut avoir son avocat privé avec le, qui l'aide. Alors, comment trouvez-vous le contexte, la justice aujourd'hui, et le contexte dans lequel les avocats évoluent? Est-ce que ce contexte vous permet d'évoluer, d'exercer bien votre travail?
Le contexte, il est ce qu'il est. Il est un peu difficile, mais cela ne veut pas dire que l'avocat doit désarmer par rapport au serment qu'il prête, par rapport au rôle qu'il doit jouer, par rapport aux missions qui lui sont confiées de par la loi, de par le règlement intérieur cadre des barreaux de la République, de par le règlement de chaque barreau. Le contexte, il est un peu difficile, mais c'est à nous de faire un effort pour que les gens comprennent notre rôle par rapport à la justice. Parce que nous parlons de la profession de l'avocat, mais on ne peut pas ignorer les réalités judiciaires ou bien la justice. Donc là, on est beaucoup plus sur la profession de l'avocat, le rôle de l'avocat dans l'administration. Nous poussons les choses pour que la justice puisse réaliser notre importance et que nous puissions amener les choses à bon port.
Bien, maître Jean-Paul Kitenge, avocat au barreau de Kinshasa et Lubumbashi et membre du barreau pénal international et du conseil des barreaux européens. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup. Des bonnes choses. On est disposé. On est toujours là. Merci.